je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs amoureux du magazine Bana Okapi, bonjour. Prenez vos chaises, installez-vous, car c'est l'heure de parler Bana Okapi. Vos enfants dépensent sans compter, l'argent disparaît de leur poche aussi vite qu'ils entrent. Stop! Il est temps de leur apprendre la valeur de l'argent et les bases d'une gestion financière saine. L'éducation financière, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça commence dès les plus jeunes âges. Trop souvent, nos enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes face à l'argent, sans savoir comment l'utiliser intelligemment. Dans cette émission, nous allons vous donner toutes les clés pour transformer vos enfants en as de la gestion budgétaire. De l'argent de poche à l'épargne, en passant par les pièges de la consommation, nous aborderons tous les aspects de l'éducation financière. Grâce à des exemples concrets, de conseils pratiques et des témoignages inspirants, nos experts vous guideront pas à pas pour inculquer à vos enfants les bons réflexes financiers. Alors, prêt à donner à vos enfants les outils pour un avenir financier serein? Restez avec nous, car l'éducation financière, c'est l'affaire de tous. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine. Une mise en onde de Pierre Diassinois. Billy Landry Beitou est à la prise de son. Christian Mapinda Noya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijan.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
L'argent, fruit du travail ou du commerce, une réalité que même les plus jeunes comprennent. Mais comment nos enfants et adolescents gèrent-ils l'argent de poche? Entre dépenses impulsives et premier pas vers l'épargne, la gestion financière est un apprentissage constant. Notre reporter Grâce Ouvezolo s'est rendu au complexe scolaire Elikia pour recueillir les témoignages des élèves. Certains voient de l'argent de poche comme un moyen d'assouvir leurs envies, d'autres peinent à maîtriser leur budget. Des réactions révélatrices qui soulignent l'importance de l'éducation financière dès le plus jeune âge. Comment accompagner nos enfants dans cet apprentissage? Les enfants s'expriment au micro de Grâce Ouvezolo.
Bonjour Samira.
Bonjour.
Selon toi, d'où vient l'argent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'argent?
Selon moi, l'argent vient de la banque et on doit travailler pour avoir de l'argent.
Et Onyx, d'où vient l'argent selon toi?
Selon moi, l'argent vient de la banque.
Toi, Emmanuela, d'où vient l'argent?
Selon moi, l'argent vient de la banque. Bon, on travaille un peu dur pour avoir de l'argent.
Et Esther?
Selon moi, l'argent vient du travail acharné et de la banque aussi pour aller prendre de l'argent. Bof.
Et Jessie?
Selon moi, l'argent vient, il faut travailler pour avoir l'argent et à la fin du mois, on va te donner par la banque.
Mia?
Selon moi, l'argent vient de la banque et pour avoir l'argent, tu dois travailler.
Messiane?
Selon moi, l'argent vient du travail acharné pour gagner notre vie.
Et Irène?
Selon moi, l'argent vient au travail et puis à la fin du mois, on te paye.
Blandon?
Selon moi, l'argent vient du commerce, en part ça, et même à la banque centrale, parce que là où on fabrique quoi? L'argent. On peut travailler jusqu'à la fin du mois, on peut nous donner quoi? Quelque chose.
Est-ce que tes parents te donnent de l'argent de poche?
Oui, moi, ma mère me donne l'argent de poche par semaine.
Oui, on me donne l'argent de poche par semaine ou bien par mois.
Et c'est combien?
$15 par semaine.
Moi, c'est moins de 10 000.
Par mois ou par semaine?
Par semaine.
Oui, on me donne l'argent de poche.
Et c'est combien?
30 000, soit 20 000 par mois.
Oui, moi, ça me donne quoi? L'argent de poche par mois, on me donne $20.
Mes parents me donnent de l'argent de poche, bon, comme 8 000 francs, pour acheter des trucs que je manque à la maison.
Voilà, alors qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là qu'on vous donne de poche chez vos parents?
Bon, moi, l'argent que ma mère me donne, je bouffe un peu et l'autre, je fais des économies.
L'argent qu'elle me donne, je bouffe un peu et je vais acheter des histoires que j'ai besoin. Et l'autre, je garde pour acheter des histoires que j'ai besoin après.
Quelles histoires que tu as besoin?
Par exemple, des histoires à manger. Par exemple, je peux acheter mes bijoux, mes histoires que j'ai besoin.
Pour moi, je sais pas. Et si j'achète, j'oublie. Je gaspille ça pour rien, je sais pas.
Parfois, je partage. Parfois, j'achète mes histoires. Parfois, les jus, des choses, des petits trucs.
L'argent qu'on nous donne, l'argent de poche, ça nous sert à acheter des trucs que j'ai besoin. Peut-être à manger.
L'argent qu'on me donne de poche, c'est pour acheter des trucs que j'en ai besoin à la maison. Comme, par exemple, des épices, si ça en manque. Ou bien des chaînettes si j'en ai besoin. Ah ouais, des biscuits, des bonbons et tout. Même des chikwangs si je veux.
Toi, qu'est-ce que tu fais avec l'argent quand t'es dans tes poches chez tes parents?
Malgré tout le montant, c'est peu, mais ça m'aide à acheter le méga et les autres choses.
Le montant là, c'est combien?
Des fois, c'est 5000 francs s'il a l'argent, des fois, c'est 3000 francs, mais ça m'aide à acheter quand même le méga pour parler avec mes amis.
Aujourd'hui, si on te donne beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent?
Moi, aujourd'hui, si on me donne beaucoup d'argent, de 1, je vais acheter ma voiture de rêve, c'est Ferrari. Et de 2, j'ai fait mes démarches pour aller en France.
Bah, moi, je fouille la maison. Je fouille la maison, j'utilise tout l'argent et après, je reviens.
Aujourd'hui, si on me donne beaucoup d'argent, je prends ma mère et m'en quitte ce pays.
Moi, si aujourd'hui, on me donne de l'argent, vu que mon âge ne va jamais accepter pour acheter une parcelle, donc je donne ma daronne de l'argent, elle achète et puis elle commence à prendre pour moi l'argent pendant le mois. Comment je veux dire, on achète la parcelle et puis elle met le genre et puis elle va commencer à prendre l'argent. Et les autres, après, je vais acheter le téléphone, arranger ma chambre, acheter les vêtements.
Moi, si on me donne beaucoup d'argent, je vais donner ça à ma mère ou bien mon père. On va acheter des choses et puis elle va acheter des parcelles. Si les autres ont resté, on va faire des démarches de voyage.
Moi, si aujourd'hui on me donne l'argent, je vais acheter des voitures, des parcelles, tout, même des habits.
Bon, aujourd'hui, si on me donne beaucoup d'argent, je vais aider ma famille pour des problèmes, par exemple, financiers. Ensuite, ce qui va rester, je peux acheter ce que j'en ai besoin, comme un nouveau téléphone, vu que mon téléphone a un peu de problèmes. Bon, acheter une nouvelle maison, par exemple, pour mes grands-parents. Ou bien, si je pouvais, je peux aussi acheter, par exemple, une voiture. Si c'est possible.
Moi, maintenant, si on me donne beaucoup d'argent, je vais à l'étranger, continuer mes études, puis aider ceux qui n'en ont pas.
Bon, moi, aujourd'hui, si on me donne beaucoup d'argent, pour le premier, je peux faire, par exemple, je peux construire une maison de même de 4 niveaux. S'il y a 2 chambres à l'intérieur, quoi, ça, des bains et le salon, parce qu'à la fin du mois, on peut me donner quoi, 250$.
Si on me donne beaucoup d'argent aujourd'hui, je vais acheter d'abord la voiture, et puis je vais donner un peu à mes grandes sœurs, et puis je vais voyager.
Est-ce qu'il t'arrive parfois d'épargner de l'argent?
Oui, ça m'arrive d'épargner de l'argent pour je ne sais quoi. Peut-être si mon argent d'économie s'est terminé, l'argent que je garde là, je pourrais utiliser pour faire ce que j'en ai envie.
Oui, parfois il m'arrive aussi d'épargner l'argent à côté quand on me donne l'argent. Exemple, si j'ai plus quelque chose ou la chose que j'en ai besoin là en ce moment, j'ai plus d'argent. L'argent que j'avais épargné peut m'aider à faire quelque chose.
Oui, ça m'arrive quand on me donne l'argent, je garde un peu. Parfois que je peux acheter quelque chose que j'ai besoin après.
Moi, si on me donne de l'argent, je vais garder un peu et puis un peu, je vais bouffer ça.
Où est-ce que vous gardez cet argent-là? Vous gardez ça où? Dans la chambre, dans votre valise, où précisément?
Ben, moi, l'argent que je garde dans la chambre et j'ai une bouteille là que je mets l'argent dedans.
Moi, ma sœur qui garde pour moi l'argent, je la donne et puis elle garde pour moi. Parce que moi, si j'ai l'argent, ça va finir le même jour pour acheter les choses, le méga, tout ça. Mais ma sœur qui m'aide à garder l'argent.
Moi-même, je garde ça à la maison ou bien à la chambre. Il y a un petit tiroir là que je mets d'argent.
Moi, je garde mon argent dans une bouteille en verre parce que si je laisse après ça, je peux l'utiliser. Je ne peux pas arriver à le garder.
Moi, je le garde dans un tiroir dans ma chambre parce que si je laisse ça comme ça, on va me le prendre.
Qu'est-ce que tu as déjà acheté avec tes économies?
Bon, moi, je n'ai pas acheté quelque chose de si grave que ça. J'achète mes bijoux, les boucles d'oreilles. Parfois, j'achète les gloss et les crayons pour mettre les dimanches et les serre-têtes.
Moi, je me souviens quand j'avais gardé beaucoup d'argent, j'ai pu acheter une basket que j'avais portée durant la fête. Mais ça m'aide de s'acheter des choses pour filles, des jarres de lumière. J'ai oublié les noms, mais on utilise ça pour décorer la chambre.
Moi, j'achète plein de trucs comme des bijoux et parfois que j'achète des chaussettes. Et d'autres argent, j'achète parfois des chapelets pour porter des bijoux là, c'est bien.
Bon, ce que j'ai déjà acheté avec mon argent, c'est une chaînette ou bien des vêtements qui me manquent à la maison.
Moi, j'ai déjà acheté avec mes économies, peut-être des shirts, des bijoux, des choses de filles, comme des chaussettes, de quoi, des gloss.
Avec mes économies, j'ai déjà acheté une poupée.
Avec mes économies, j'ai déjà acheté une balle de basket et une chaînette pour l'une de mes amies pour son anniversaire.
D'après toi, comment peux-tu gagner de l'argent?
On gagne de l'argent quand tu travailles. Là, tu peux gagner de l'argent. Tu travailles et puis en fin du mois, on va te donner l'argent.
C'est le moment pour garder de l'argent. Tu dois travailler ou bien vendre quelque chose. Ça peut t'aider à prendre de l'argent.
On peut travailler pour gagner de l'argent. Mais selon moi, vu que je suis petite, je ne peux pas travailler. C'est mes parents qui me les donnent. En travaillant.
Pour moi, pour trouver de l'argent, bon, j'économise l'argent que mes parents me donnent parce qu'ils ne peuvent pas toujours me donner de l'argent chaque jour.
Travailler dur, tu te donnes à fond pour à la fin que tu obtiennes quelque chose pour nourrir ta famille, pour toi-même.
C'était un plaisir d'écouter les enfants au micro de Grâce en Vézolo. L'éducation financière, un enjeu qui concerne aussi les adolescents. Dans les rues animées de Kinshasa, nous avons rencontré des jeunes aux aspirations diverses. Si certains expriment un réel intérêt pour la gestion de l'argent, d'autres se montrent plus réservés, notamment lorsqu'il s'agit de demander de l'aide financière à leurs proches. Notre reporter Plotin Yambenga a recueilli des témoignages révélateurs. Concernant l'utilisation de l'argent de poche, les priorités divergent. Certains privilégient les achats personnels comme les bijoux, tandis que d'autres font preuve d'une grande générosité en venant en aide aux plus démunis, notamment les sans-abri. Suivez-les.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment t'appelles ?
Je m'appelle André Lumbulé.
Et comment est-ce que tu gères ton argent des poches, André Lumbulé ?
Bon, parfois, si on me donne l'argent des poches, j'économise. Ouais. Parfois, je paye mes choses, je prends ma bouche, pantalon. Et s'il reste, je mange.
Je m'appelle Paraclé.
Bon, si je trouve que j'ai quelque chose à faire avec, donc je les mets déjà en projet, donc je vois, si par exemple on me donnait de l'argent, donc je vois que j'ai tel problème, donc je vais les programmer pour ces problèmes pour les réaliser.
Et comment est-ce que tu gères ton argent des poches, Wawina?
Moi, bon, je gère ça, bon, si je cherche à gérer l'argent, mais bon, si je vois des gens à la route en train de demander, bon, je les donne. Je n'ai pas d'autre choix qu'à les donner.
Et comment est-ce que tu fais des choix quand tu as l'argent, quand tu dois acheter quelque chose avec ton argent? Comment tu procèdes?
Bon, j'ai réfléchi d'abord. Ce qui est bon à acheter et ce que... bon, ce qui n'a pas d'importance et ce qui a d'importance. J'achète ce qui a d'importance comme des vêtements, des boucles d'oreilles, donc tout ce qui va me servir à quelque chose.
Bon, si je veux payer quelque chose, je demande parfois à papa, maman, je voulais faire ça, je voulais faire ceci, et je demande, et ils vont me donner.
Oui, moi, pour moi, je trouve le meilleur moyen d'épargner de l'argent, c'est genre thésauriser l'argent. Oui. Je prends, je garde. Par exemple, je peux dire si j'ai 20 dollars, je peux garder 10 dollars. Le reste, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, j'enlève un 5 dollars. L'autre 5 dollars, je peux, par exemple, faire un commerce, comme je venais de dire, acheter quelque chose que je peux revendre à un bon prix, en fait, que ça puisse... encore, l'argent puisse encore se multiplier. Puis, quand j'aurai cet argent, je vais encore enlever la moitié pour mettre dans les 10 dollars que je vais garder. C'est le meilleur moyen de garder l'argent tout en les multipliant.
Bon, je vais regarder si je vois que je manque peut-être des babouches.
Oui.
Je vais partir acheter des babouches. Je vois que j'ai des. Je dois ajouter mes habits. Donc, je regarde en moi d'abord si je manque quelque chose qui est important, donc je pars l'acheter.
Donc tu dépenses ton argent en fonction des priorités.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de demander de l'argent aux amis aussi?
Demander de l'argent, sincèrement, ce n'est pas le bon moyen d'avoir l'argent. Si tu veux de l'argent, tu as tes parents, tes soeurs, tu peux demander à travers elles et puis les garder la moitié et puis l'autre utiliser. Ce n'est pas vraiment... bien, par courtoisie, ce n'est pas très bien de demander de l'argent aux autres.
Ouais, l'argent à des amis, je demande, mais ça m'arrive pas vraiment.
Et aux membres de ta famille, tu le fais?
Ouais, aux membres de ma famille, je le fais.
Et pourquoi tu le fais?
C'est parce que j'en ai besoin.
Et est-ce qu'il t'arrive d'épargner de l'argent?
Pardon?
Il t'arrive d'épargner, de mettre quelque chose de côté quand tu as l'argent, d'épargner un tout petit peu?
Parfois.
Parfois, pour quoi faire, pour réaliser quel genre de projet par exemple?
Comme aider mes parents, aider mes amis, surtout à l'église, quand on demande d'aider les pauvres.
Est-ce que tu sais ce que c'est un crédit? Tu as déjà entendu un proche dire qu'il va solliciter un crédit dans une banque? Tu as déjà entendu ça?
Bon, je n'ai pas entendu ça.
Pas encore.
Tu as déjà entendu un proche dire qu'il va solliciter un crédit auprès d'une banque, auprès d'une institution de finances?
Oui.
C'est quoi?
Un crédit bancaire, c'est un compte?
À ma connaissance, c'est un moyen de garder de l'argent, un peu comme des cartes bancaires. Je garde l'argent à la banque.
Est-ce que tu y es prêt un jour où tu seras disposé de solliciter un prêt auprès d'une institution bancaire de notre pays?
Bon, quand je serai grand, je vais le faire.
Pour réaliser quel genre de projet, par exemple, quand tu sollicites 10 000 dollars auprès de la RAO Bank, par exemple, qu'est-ce que tu peux réaliser comme projet?
Aider mon pays.
Aider le pays.
Oui.
Quels sont tes projets professionnels, tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu comptes devenir dans la vie?
Dans la vie, j'ai besoin de devenir footballeur,
je veux devenir journaliste, pilote.
Un médecin.
Et comment tu fais pour atteindre cet objectif?
Je n'ai pas encore commencé, mais là j'ai fini d'abord. Si j'ai fini mes études humanitaires.
Bon, par la prière, tout se fait par la prière et Dieu va le réaliser.
En fait, vu que j'ai mon grand-père qui est aussi journaliste, je pense que quand je vais terminer mes études, même s'il aura sa pension, mais il y a quand même des connaissances. Quand j'irai à l'université, je vais demander à mon grand-père de m'aider à faire des stages. Il va déjà commencer à m'apprendre. Et moi-même, d'abord, je devrais lire moi-même et puis regarder les émissions, comment est-ce que les journalistes font. Comme ça, quand j'irai au stage, moi, que je ne puisse pas avoir des difficultés.
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mon idée, c'est de devenir pilote parce que j'ai rêvé de devenir pilote depuis que j'étais petite.
Merci d'avoir répondu à ma question.
L'éducation financière, un investissement pour l'avenir de nos enfants. Apprendre à gérer un budget, épargner et investir des compétences essentielles pour leur permettre de s'épanouir et de devenir des adultes responsables. Dans les rues de Kinshasa, nous avons rencontré un père de famille convaincu de l'importance de cette éducation. Selon lui, initier les enfants et les adolescents aux finances est un gage d'autonomie et des responsabilités pour leur avenir. Suivons-le au micro de Sulamit Kipuni.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame la journaliste.
Donnez-vous de l'argent de poche à vos enfants?
Je peux dire donner de l'argent de poche aux enfants, oui. C'est obligatoire en fait. Mais il est obligatoire. Mais il faut donner de l'argent à l'enfant. Parce qu'il y a des petits besoins pour lesquels l'enfant, peut-être que surtout les enfants filles, ont des besoins, ils ont honte de dire que lorsque vous lui donnez de l'argent, il peut s'en procurer tout ce qu'il a besoin.
Pouvez-vous nous dire comment encouragez-vous vos enfants à épargner de l'argent?
Oui, les enfants, on les encourage à épargner l'argent en les aidant d'utiliser à bon escient l'argent mis à leur disposition. Oui, on doit les conseiller aussi d'économiser l'argent.
Comment vous faites pour gérer leur demande d'argent?
Oui, mais on doit leur donner l'essence d'épargne. On doit donner l'essence d'épargne aux enfants. On doit les expliquer qu'on ne peut pas tout avoir.
Comment faites-vous pour leur enseigner la différence entre le besoin et les envies?
Il faut commencer par définir ce que c'est le besoin. Donc, le besoin d'un homme provenant de la nature ou de la vie sociale. Et vous, l'envie en d'autres termes, c'est le désir. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est cette tendance à vouloir obtenir un objet connu. L'enfant a envie de, il veut porter tel pantalon, il y a tel modèle qui est sorti, cette envie-là, c'est le désir. Alors, en globalité, on pouvait dire que les besoins tournent autour de ce qui est essentiel. L'envie est souvent exprimée par un souhait.
Est-ce que vous les impliquez dans les décisions financières familiales?
Oui. Au fait, l'implication des enfants dans les décisions financières familiales est un exercice de transparence. Ok? Donc, l'exercice de transparence pour les parents, ils doivent expliquer les raisons des choix d'achat importants ou des décisions d'investissement. Donc, tout ce qu'on décide, on doit expliquer aussi les enfants. Papa a acheté une parcelle, c'est un investissement. Papa veut acheter une garde-robe, papa veut acheter un nouveau salon, parce que c'est ce qui est là, il faut impliquer les enfants pour qu'ils comprennent que non, l'argent qu'on a, papa a fait ceci, a fait cela.
Vous est-il déjà arrivé d'aborder les sujets sensibles comme les dettes ou les difficultés financières avec les enfants? Si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi suite à cela?
Non, mais chaque famille peut être confrontée à des difficultés financières. Dans telle situation, on fait quoi? Parce que nombreux parents se pose la question, est-ce qu'il faudra-t-il parler des soucis d'argent à l'enfant? La réponse est oui. Il faut dire aux enfants les difficultés que vous avez, mais d'une manière adaptée, de telle sorte que, pas c'est un enfant, il faut discuter, il faut avoir des discussions ouvertes avec l'enfant pour qu'il puisse bien comprendre ce que vous avez comme problème. En même temps, ils peuvent apprendre aussi beaucoup sur la façon de gérer l'argent de manière responsable.
Est-ce que vous enseignez à vos enfants à être des consommateurs responsables?
Oui, il faut enseigner aux enfants à être des consommateurs responsables parce qu'il est loisible de leur dire à consommer avec modération. Moins, mais mieux. Okay? Et puis, il faut faire réfléchir à l'enfant qu'il puisse acheter un article à consommer, puisqu'il ne puisse pas acheter des histoires déjà périmées. Donc, il faut toujours conseiller à l'enfant de faire les choix d'achat.
Avez-vous rencontré des défis en matière d'éducation financière avec vos enfants?
Oui. Les défis, il y en a. Lorsque vous organisez un anniversaire, donc un truc spécial à l'anniversaire, à faible coût. Les enfants peuvent se dire, non, mais pourquoi on ne pas aller dans une salle ou quelque chose de pareil, mais à la maison, à faible coût. Tout ça aussi, c'est dans le sens de pouvoir éduquer les enfants. Ce sont des défis à relever. La comparaison n'est pas raison. On doit les aider à différencier les besoins aux désirs passagers.
Les amis de Bano Okapi, votre magazine se poursuit. L'éducation financière des enfants, un sujet qui divise. Si certains prônent l'apprentissage par l'argent de poche, comme l'a préconisé ce père de famille que nous venons de suivre, d'autres mettent en garde contre les dangers d'une telle pratique. Une mère de famille rencontrée à Kinshasa nous livre sa vision au micro de Sulamit Kiponi.
Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous donnez de l'argent de poche à vos enfants?
Non, non.
Nous pouvons savoir pourquoi?
Parce que l'argent détruit les enfants, détruit l'éducation des enfants. Si on invite l'enfant à prendre l'argent dont il n'a pas travaillé, les enfants risquent d'être des voleurs à l'avenir. Donc, au lieu de donner l'argent, mieux vaut acheter quelque chose, donner l'enfant.
Et comment vous faites pour encourager vos enfants à épargner de l'argent?
Pour encourager nos enfants à épargner de l'argent, nous leur donnons un petit somme là-bas qui peut acheter même une boîte de bonbons, une boîte là où il y a 100 pièces. Les enfants vont commencer à vendre ça en cours de l'école et ils viendront avec un petit bénéfice.
Est-ce que nous pouvons savoir comment vous faites pour gérer leurs demandes d'argent?
Vraiment, pour les demandes d'argent, on ne donne pas de l'argent aux enfants. Nous leur donnons un petit commerce. Le petit commerce là-bas va donner maintenant des intérêts. Et l'intérêt, nous allons contribuer même comment consommer avec les enfants cet intérêt.
Nous pouvons savoir comment vous faites pour les enseigner la différence entre les besoins et les envies.
Oui, pour les enseigner entre les besoins et les envies, donc. Je vais donner juste un petit exemple. L'enfant peut arriver à l'école et il voit que son ami a les iPads là, les téléphones de jeu des enfants. Et l'enfant reviendra à la maison en train de pleurer. Maman, si on veut qu'on puisse nous acheter les iPads, là-bas c'est une envie parce que ça sert à rien à l'éducation à l'école donc. C'est pour seulement jouer les jeux. Mais si c'était les cartables, disons, les cartables va aider à garder ses cahiers. Les cahiers aussi va aider à garder la matière. Mais si c'est l'iPad là-bas, c'est seulement pour distraire l'enfant. C'est ça. Donc, il faut seulement faire expliquer à l'enfant que l'iPad, c'est une envie, mais les cartables, c'est un besoin. Parce que chaque élève doit avoir un cartable, mais ce n'est pas obligé que chaque élève ait l'iPad, c'est ça.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'impliquer vos enfants dans des décisions financières familiales?
Oui, oui. Disons que nous avons un projet d'acheter un parcelle. Ou bien on a déjà acheté, il reste un point. Nous allons privilégier les enfants à beaucoup de choses. Disons comme des collations. Si l'enfant partait avec des trucs de 5$ là-bas et nous avons besoin de payer la dette, l'enfant ne partira pas avec les trucs là-bas. Il faut seulement l'expliquer qu'on va changer. Hein? Parce que nous avons la dette, il faut que nous payions. Les enfants aussi, vous allez nous aider. Parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour nous et pour vous, et pour votre avenir, c'est ça.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aborder les sujets sensibles comme les dettes ou les difficultés financières avec vos enfants? Si oui, comment est-ce qu'ils réagissent suite à cela?
Ah oui, les enfants comprennent souvent. L'enfant, c'est une mine riche, donc si tu leur dis que c'est le mal, ça dépend de comment tu l'as éduqué. Il nous est déjà arrivé que nous avons pris la dette à la banque, on était en train de construire. Il fallait seulement les expliquer que nous allons changer beaucoup de choses parce que nous avons la dette. Si papa avait l'habitude d'amener beaucoup de chocolat, c'est bien état. Papa ne viendra pas avec des chocolats parce que il faut que nous cherchions d'abord comment payer la dette et pour revenir dans le rythme normal, c'est ça.
Est-ce que vous enseignez à vos enfants à être des consommateurs responsables?
Oui. Tu vois, l'enfant, tu peux donner l'enfant 100$ et tu lui demandes comment tu vas faire ces 100$. Il va te dire que je vais aller acheter des biscuits, des chocolats, tu vois. Ça, ce sont des trucs inutiles. Mais pour consommer responsablement, il faut seulement contribuer aux consommations des enfants. Tu vas lui montrer combien de fois les bonbons là-bas n'ont aucun sens. Au contraire, ça va abîmer les dents. Mais si on achetait, disons, 1 kilo de viande, nous allons le partager et ça va faire du bien à la santé, donc c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux défis que vous rencontrez en matière d'éducation financière avec vos enfants? Ils obéissent à tout ce que vous leur dites?
Oui, oui, les enfants obéissent à tout ce que nous... Seulement si on le dit dans des bons sens, tu vois. Il y a aussi des sens de dire les enfants. Les enfants aiment que quand ils les parlent, il faut d'abord qu'ils soient errants, tu vois. quand ils sont RRS, là-bas, tu vas, tout ce que tu vas dire là-bas, les enfants vont comprendre. Et partout où il sera, il saura que maman nous aide pas. Ou bien papa et maman nous a déjà dit qu'il fait quelque chose, tu vois. Nous allons patienter. Même si que les autres amenaient des trucs là-bas, lui, il va te dire non. Moi, je n'ai pas demandé parce que je sais que maman est en train de payer les dettes, mais quand ils vont terminer, nous aussi, nous allons les amener. Comme c'est ça.
Est-ce que vous pensez que votre propre éducation financière influe à la façon dont vous enseignez de l'argent à vos enfants?
La réalité est que à propos de l'argent, les enfants apprennent beaucoup. Mais ça dépend aussi de la capacité intellectuelle de l'enfant. Tu vois, bon, moi, je suis commerçante. Mon mari, c'est un travailleur. Il faut seulement apprendre aussi les enfants comment faire, tu vois. Les enfants aussi font des petits commerces, comme vendre des trucs à l'école, des trucs pareils, tu vois. Avec ça, ils vont grandir avec une intelligence de chercheur.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Kapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Kapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Seul et ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de Bana Kapi, votre magazine dédié aux jeunes, aux plus jeunes et aux parents, en partenariat avec Radio Kapi et l'UNICEF. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet crucial, l'éducation financière de nos enfants et adolescents. Comment leur apprendre à gérer leur argent, à épargner et à réaliser leurs rêves? Entre les envies de sortie, de vêtements de marque et les rêves d'objets high-tech, nos adolescents ont souvent du mal à maîtriser leur budget. Résultat, ils se tournent vers leurs parents pour les achats plus importants. Mais cela peut changer. Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons vous dévoiler des techniques et des astuces concrètes pour aider vos enfants et adolescents à devenir de pros de la gestion financière. Nos invités experts partageront leurs conseils pour apprendre à économiser, à planifier ses dépenses et à réaliser ce projet. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Soumbela. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendamouya Chris avec la mise en onde de Pierre Diassinois, tandis que Billy Landré Bétou est à la prise de son et la supervision de Jean-Marc Matokimo Felele, Dijano. La perception de l'argent évolue avec l'âge, c'est un fait. Mais comment accompagner nos enfants dans cette découverte? Comment leur apprendre la valeur de l'argent et la patience nécessaires pour atteindre leurs objectifs? Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Eugène Vomba, psychologue clinicien au Centre d'écoute psychoclinique de la Dignité à Ocha, chef-lieu du territoire de Beni, dans le Nord Kivu, et vice-président de la Corporation des psychologues cliniciens de Beni. Il nous expliquera pourquoi il est essentiel de fixer des limites et éduquer nos enfants à la patience. Guylaine Kassassir s'est entretenue avec lui pour recueillir ses précieux conseils.
Eugène Vompa, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Comment les enfants perçoivent-ils l'argent à différents âges?
Et merci beaucoup pour la question. Il faut dire que la perception de l'argent évolue avec le développement cognitif et affectif de l'enfant. Il faut d'abord parler de la petite enfance qui va de 3 à 5 ans, où l'argent est perçu comme un objet concret servant à obtenir quelque chose immédiatement. La notion d'échange et de valeur est encore abstraite. Il y a la période d'enfance qui va de 6 à 9 ans. L'enfant ici commence à comprendre que l'argent sert à acheter des choses et que l'on doit parfois attendre pour obtenir ce que l'on veut. Ici, l'enfant perçoit aussi que les adultes gagnent de l'argent en travaillant. À la période de préadolescence qui va de 10 à 12 ans, ici maintenant c'est le développement de la notion d'épargne et des inégalités financières. Ici, l'enfant peut ressentir de la frustration s'il compare ses ressources à celles des autres. À la période d'adolescence maintenant, qui va de 13 à 18 ans, l'argent devient un outil d'autonomie et d'identité sociale. C'est ici que vous allez voir un adolescent faire des choix financiers influencés par ses émotions, ses amis ou la société de consommation. Je m'en vais ici à citer l'auteur qu'on appelle Jean Piaget, qui, à travers ses travaux sur le développement cognitif, montre que la pensée abstraite se développe progressivement, ce qui explique pourquoi les jeunes enfants ont du mal à saisir des concepts comme l'investissement ou la gestion budgétaire.
Comment les parents peuvent-ils gérer les demandes d'argent de leurs enfants de manière constructive?
Merci, madame, pour cette question. Une gestion saine des demandes financières passe par l'éducation, la communication et l'encadrement. Il faut premièrement fixer des règles claires. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux enfants que l'argent a une limite et qu'il ne peut pas toujours être donné sur demande. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut encourager la patience et la planification. Introduire des concepts de l'épargne pour différer la gratification de tout ce qui peut être donné facilement comme ça. Ça, c'est important. Il faut encourager la patience et la planification. Et l'autre élément, c'est qu'il faut impliquer l'enfant dans les décisions financières. C'est important aussi. Laisser l'enfant gérer une petite somme d'argent de poche pour apprendre à faire des choix et à assumer leurs conséquences. Il faut aussi différencier les besoins et les désirs. Expliquer la différence entre une dépense essentielle, là on voit par exemple la nourriture, les vêtements, et une dépense plaisir, là on voit les jouets et autres. C'est pourquoi l'objectif ici serait d'instaurer une relation saine avec l'argent en évitant d'utiliser ces derniers comme une forme de récompense ou une punition systématique, ce qui pourrait sans nul doute perturber la construction de l'autonomie financière.
Eugène Fompa, comment l'éducation financière peut-elle contribuer au développement de l'autonomie et de la responsabilité chez les jeunes?
L'éducation financière joue un rôle crucial dans le développement de l'autonomie en permettant aux jeunes de prendre conscience de la valeur de l'argent. Ici, les enfants comprennent d'où vient l'argent et comment il s'utilise. Ils prennent des décisions plus réfléchies. Cela permet aussi aux enfants de développer la responsabilité. Gérer un budget ou une allocation d'argent de poche les oblige à faire des choix et à en assumer les conséquences. Un autre élément, c'est que cela arrive à prévenir les comportements impulsifs. Cela permet de prévenir les comportements impulsifs dans le sens que la gestion financière repose sur la capacité à différer une gratification immédiate pour un besoin futur qui est plus grand, et aussi éviter les pièges de la société de consommation. Les adolescents sont souvent ciblés par la publicité et le marketing. Une éducation financière précoce va donc leur permettre de développer un esprit critique face aux sollicitations commerciales. L'apprentissage peut se faire à travers des jeux éducatifs, des applications de gestion de budget, par exemple, ou encore l'implication des jeunes dans les décisions financières familiales, adaptées à leur âge, bien sûr.
Selon vous, quels sont les signes avant-coureurs d'une mauvaise gestion financière chez les adolescents?
Ce que l'on peut dire ici, c'est que certains comportements peuvent alerter les parents et éducateurs. Premièrement, ce sont les dépenses impulsives et incontrôlés, achats fréquents d'objets inutiles ou tendance à céder rapidement aux promotions, la difficulté à épargner, on voit l'incapacité à mettre de côté une partie de l'argent de poche ou du salaire d'un job d'étudiant. Un autre élément, ce sont les endettements précoces. Vous allez voir un jeune étudiant ou un jeune élève emprunter de l'argent aux amis ou utiliser des services de crédit sans compréhension des implications. Un autre élément, c'est le manque de transparence. Manque de transparence, il y aura refus de parler de cette dépense ou une tendance à cacher ses achats. Un autre élément, c'est la pression sociale excessive. Vous allez voir une certaine dépendance aux tendances et une volonté de suivre un style de vie qui est au-delà de ses moyens. En fait, tous ces comportements deviennent récurrents et il peut être utile donc de discuter avec l'adolescent de ses rapports avec l'argent et d'exploiter d'éventuelles influences extérieures, la pression de père, l'influence des réseaux sociaux et la faible estime de soi.
Et alors enfin, comment aider les jeunes à développer une relation saine avec l'argent?
Comment aider les jeunes à développer une relation saine avec l'argent? C'est une préoccupation importante. L'accompagnement vers une gestion équilibrée de l'argent repose sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est encourager l'autonomie financière progressive. Ici, il faut donc confier aux jeunes des responsabilités financières adaptées à leur âge, comme gérer un budget pour leur sortie ou économiser pour un achat important. Le deuxième principe, c'est favoriser une approche équilibrée entre plaisir et responsabilité. L'argent ne doit être ni une source d'angoisse, ni un outil de gratification immédiate permanente. Le suivant principe, c'est développer une attitude critique face à la consommation. Aider les jeunes à analyser ensemble la publicité, les stratégies de marketing et les messages véhiculés par les réseaux sociaux. C'est en tout cas important. Et l'autre principe, c'est modéliser les bonnes pratiques. Les jeunes doivent arriver à apprendre en observant leurs parents. En fait, les jeunes apprennent en observant leurs parents. Et donc, une gestion financière responsable, on sait de la famille, on sait du foyer, leur servira d'exemple. Et l'autre principe, qui serait le dernier, c'est valoriser la générosité et la solidarité. Apprendre à donner et à partager renforce une relation saine avec l'argent en évitant un rapport purement matérialiste. Et donc ici, l'objectif est donc de faire de l'argent un outil au service de la vie et non une fin en soi, en instaurant dès l'enfance une approche équilibrée entre gestion, plaisir et responsabilité. En conclusion, il faut dire qu'en favorisant une éducation financière adaptée et en instaurant des règles claires et bienveillantes, les parents et les éducateurs peuvent prévenir les comportements impulsifs et aider les jeunes à développer une relation saine, mais aussi équilibrée avec l'argent.
Et je ne vous en pas, merci.
Merci madame.
L'éducation financière a un apprentissage qui s'est construit dès les plus jeunes âges. Mais quel rôle doivent jouer les parents et les banques dans cette démarche? Nous avons rencontré madame Arlène Mwimba, caissière dans une banque de la place, pour en discuter. Elle nous livre ses éclairages sur les responsabilités de chacun. Une interview de Christelle Fritti.
Madame Arlène Mwimba, vous êtes caissière dans une banque de la place. Bonjour.
Bonjour.
C'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur les antennes de Radio Capi. Alors, concernant notre sujet d'aujourd'hui, la première question qui nous vient en tête est la suivante. Pourquoi est-il important d'enseigner aux enfants et aux adolescents le base de la gestion financière?
Alors, c'est très important parce que ça va permettre aux enfants d'acquérir certaines connaissances et certaines notions sur la gestion financière qui va les permettre à bien gérer leurs ressources. Parce que nous, on n'a pas eu cette occasion. C'est plus à l'université qu'on a étudié tout ce qui est gestion financière. Mais nos enfants, eux, ils peuvent avoir ces privilèges de connaître ces connaissances avant même d'aller à l'université.
Les enfants peuvent connaître ces notions bien avant même d'aller à l'université. Comment ça se passe?
Au niveau de banque, ils peuvent organiser des séminaires, des conférences pour essayer de mettre en éveil les enfants, les conscientiser afin qu'ils puissent être en contact de certaines notions, que ça soit pas un monde inconnu pour eux qu'ils vont découvrir juste à l'université.
Et quels sont les concepts financiers clés que les enfants et les adolescents devraient comprendre?
Alors, les adolescents et les enfants doivent comprendre plusieurs concepts. Par exemple, c'est quoi un virement bancaire? C'est quoi un dépôt? C'est quoi un retrait? Ils doivent aussi connaître c'est quoi l'épargne? C'est quoi un investissement? Comment investir? Quels sont les risques d'un investissement? C'est quoi le remboursement? C'est quoi le crédit? C'est quoi une avance sur salaire? Alors, toutes ces notions, les enfants doivent les connaître pour se familiariser avec tout ce qui est gestion financière.
Et de tous ces concepts financiers clés que vous venez de citer, vous passez par quel canal pour faire comprendre cela à vos clients, les enfants et les adolescents?
Alors, les enfants, généralement, nous passons par le parent, parce que pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, c'est les parents qu'on conscientise d'ouvrir de comptes pour les enfants de moins de 18 ans, qu'ils habituent les enfants de venir à la banque, parce que même ceux qui ont moins de 18 ans, qui n'ont pas accès au retrait sur le compte, mais ils peuvent passer à la banque pour effectuer des dépôts. Déjà, le fait que ces enfants viennent régulièrement à la banque.
Accompagner leurs parents.
Oui, donc ça les familiarise un peu avec le monde financier.
Personnellement, je peux te dire que investir, prendre un crédit, de choses comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent toujours pas à s'adapter, même faire de retrait par le distributeur. Ça complique. Hein. Oui. Parfois, on ne sait pas comment insérer la carte, comment la retirer. Ben, c'est un peu compliqué. Et si on parlait de rôle, quel rôle les banques peuvent-elles jouer dans l'éducation financière de jeunes?
Alors, le rôle de la banque, c'est vrai, c'est pas un rôle primordial parce que c'est partagé. Il y a les institutions, tout ce qui est université, tout ce qui est enseignement, ils ont leur rôle. Mais la banque, à elle, elle fait sa part. Et comme je disais tout à avant, c'est par l'étruchement de parents. On parle de produits qui sont accessibles. Par exemple, il y a certains produits qui sont accessibles via Internet. Donc, déjà avec cette manipulation, on n'a pas besoin qu'un enfant soit à l'âge de la majorité. Donc, avec les produits via Internet, un enfant peut effectuer tout ce qui est dépôt, tout ce qui est virement. Déjà, si l'enfant se familiarise avec ces systèmes Internet, il sera au même de le faire, même quand il sera à l'âge de la majorité, de se présenter physiquement ou bien en présentiel dans une banque.
Actuellement, il y a aussi le système de banque... dans le téléphone, vous avez votre compte bancaire sur le téléphone, vous vérifiez et tout. Ça permet aussi aux parents de jeter un œil sur les enfants, sur leur compte et tout.
Oui, 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 ça permet parce qu'avec ça, vous avez, vous connaîtrez le solde, qui a déposé, il a retiré quand et combien. Et ça permet à ce que le parent ait une vue d'ensemble sur la gestion du compte de leurs enfants.
Et quel type de comptes bancaires sont disponibles pour les enfants et les adolescents?
Nous avons deux types de comptes. Pour les adolescents, ils peuvent ouvrir un compte épargne. Déjà, le nom le dit, épargne, c'est pour encourager l'épargne qui, dans le futur, peut être affectée pour un investissement. Mais il y a aussi le compte courant pour les adolescents. C'est pour effectuer des mouvements courants, comme on le dit. Mais contrairement aux adolescents, les enfants n'ont pas accès aux comptes courants ou épargne. Donc c'est ainsi que nous encourageons les parents d'ouvrir des comptes épargne pour les enfants de moins de 18 ans. Et à l'âge de la majorité, ils pourront gérer les comptes. Mais n'empêche que les parents peuvent accorder le carte à leurs enfants pour une gestion de fonds, soit en leur donnant des cartes Visa, dont le solde est directement lié à leur compte, ou une carte est prépayée. Ça donne la possibilité aux parents de déposer une certaine somme que les enfants pourront gérer.
Et quels sont les différents types d'investissements adaptés aux jeunes?
Alors, pour le jeune, ils doivent commencer par des petits investissements, comme je le disais. Ça dépend du milieu. Par exemple, à la ville de Kinshasa, ça peut être la vente de cartes, ça peut être une cabine téléphonique ou bien vendre de petits articles qui, à la longue, peut produire des intérêts et permettre à ce que l'investissement puisse s'élargir à d'autres produits.
Et comment les jeunes peuvent-ils apprendre à épargner de l'argent grâce aux produits bancaires?
Les jeunes peuvent apprendre à épargner de plusieurs façons. Comme je le disais, les parents, généralement, ont l'habitude de donner de l'argent de poche aux enfants. Donc, les parents doivent instruire les enfants qu'au lieu de faire la thésaurisation, par exemple, ils peuvent ouvrir des comptes. Donc, le parent ouvre un compte à l'enfant et l'enfant a l'habitude de passer à la banque parce que là, c'est ouvert même aux adolescents.
Au lieu de donner directement à l'enfant, oui. On lui fait un dépôt.
Voilà. Et on peut même encourager l'enfant à passer lui-même à la banque juste pour s'habituer. Il passe à la banque régulièrement pour effectuer des dépôts sur son compte. Ça va lui permettre d'avoir la notion d'épargner, de ne pas consommer toutes ses ressources financières.
C'était un plaisir pour nous, Madame Arlène Mouimba. Je rappelle, vous êtes caissière dans une banque de la place. Merci pour ces moments d'échange et on s'est dit à la prochaine.
Merci beaucoup, c'est à moi aussi de vous remercier.
Merci.
Okapi.
Okapi. Okapi.
Pour les jeunes entrepreneurs, la réussite ne s'improvise pas. Mais alors, quels sont les secrets d'une gestion financière efficace? Selon Alpha Mukandiloa, entrepreneur et formateur, la responsabilité sociale, l'épargne et l'évaluation financière sont les piliers d'une entreprise pérenne. Il insiste sur l'importance de la résilience et de l'éducation financière pour les jeunes qui veulent se lancer. Alpha Mukandiloa s'entretient avec Pascal Tinamula.
Alpha Mukandiloa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors vous êtes entrepreneur, directeur et fondateur des Hokongo Business. Vous avez été lauréat du concours L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs en 2020, puis du festival Amani en 2022 et USADEF en 2024. Quel est le domaine de prédilection de votre entreprise Hokongo Business?
Le domaine de prédilection de notre entreprise, c'est d'abord la savonnerie et deuxièmement, c'est de notre entrepreneur dans l'éducation financière. Et donc, pour le moment, nous nous focalisons à des compétences privées et pour les personnes morales, notamment les ONG et d'autres entreprises privées au niveau de Bukavu, de Goma, de Kisangani et de Kinshasa.
Parce que vous avez parlé de l'éducation financière parmi les domaines de prédilection de l'association Hokongo Business. Depuis quand vous avez commencé à vous intéresser à la thématique de la gestion financière et de l'éducation financière?
Bon, en tant qu'entrepreneur, je me suis rapidement rendu compte que la gestion financière est cruciale pour la pérennité de mon entreprise. Mon intérêt a été de renforcer par mes expériences lors du concours L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs en 2020, où j'ai appris l'importance d'une bonne gestion de ressources.
Comment vous avez évalué déjà le niveau de l'avancement de votre entreprise dès que vous avez commencé à vous intéresser à la question de l'éducation financière?
Bon, j'évalue mon avancement en examinant la croissance de mon entreprise, l'atteinte de mes objectifs financiers et ma capacité à attirer l'investissement, compris à Mani Entrepreneur en 2022 à Goma et le prix Moulima 2024 de l'USAIDF à Bukavu.
Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour que vous puissiez atteindre ces résultats et pour bien gérer vos ressources?
Bon, j'ai mis en place des stratégies telles que l'établissement d'un budget prévisionnel, la diversification de mes sources de revenus et l'optimisation des dépenses pour maximiser la rentabilité de mon entreprise au Congo Business.
Des centaines de milliers de jeunes hasardent à se lancer dans les domaines entrepreneuriales. Quels aujourd'hui les conseils que pourriez leur donner afin de leur apprendre à bien gérer leurs revenus?
Je conseillerais aux jeunes entrepreneurs de former des bases solides en gestion financière, de fixer des objectifs clairs, d'apprendre à lire les états financiers et toujours chercher à se former à travers le concours des incubateurs et des événements comme le festival Amani, à Goma, et de ne jamais confondre le patrimoine personnel au patrimoine de l'entreprise, parce que c'est parmi les facteurs qui font tomber plusieurs entreprises et startups au niveau de Bukavu, de Goma, en RDC.
Les avantages d'une bonne gestion financière, d'après votre expérience, sont lesquels?
Bon, une bonne gestion financière permet aux jeunes entrepreneurs de sécuriser leur avenir, de renforcer la crédibilité de leurs entreprises auprès des investisseurs et de naviguer le défi économique.
Et quels sont les erreurs aujourd'hui que vous pensez on devrait éviter en matière de gestion financière et d'éducation financière?
Les erreurs à éviter incluent le manque de planification financière, la négligence de coûts cachés, le fait de ne pas suivre ses indicateurs de performance et de se laisser emporter par des décisions impulsives sans analyse préalable.
Monsieur Alpha Mukandilwa, fondateur et président de Haut Congo Business, la radio Capu, vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Radio Capi, le souffle du Congo.
L'argent, une valeur à enseigner dès les plus jeunes âges. Comment faire comprendre aux enfants que l'argent se mérite? Le docteur Michel Mouvaudi, expert en administration des affaires, insiste sur l'importance de lier l'effort à la récompense financière. Il nous explique comment cette notion peut façonner des adultes responsables. Une interview d'Étienne Lissombo.
Michel Mouvaudi, bonjour.
Bonjour, cher Étienne.
Vous êtes spécialiste en administration des affaires. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation financière auprès des adolescents. Vous pouvez nous dire pourquoi est-il important d'enseigner l'éducation financière dès les plus jeunes âges?
Alors, je voudrais d'abord ici préciser ce qu'on appelle une éducation financière. En fait, dans le mot ou dans le terme éducation financière, il y a un mot important qui s'appelle l'éducation. En fait, l'éducation, c'est une dimension d'apprentissage qui prend en compte les valeurs sur un domaine donné. Lorsqu'on parle de l'éducation financière, c'est parce que on sait très bien que l'argent, n'est-ce pas, les ressources financières sont importantes pour pouvoir planifier et mettre en œuvre des actions de la vie. Donc ça reste capital d'apprendre cela. Alors depuis 2005, l'OCDE, qui en fait l'Organisation de la coopération et du développement économique, avait justement donné une définition de l'éducation financière en insistant sur le fait que c'est en fait un apprentissage qui consiste à renforcer les capacités des individus dans la gestion des produits de manière globale, parce que quand on parle de finances, c'est pas seulement l'argent en espèces, mais ça peut être aussi des biens, ça peut être aussi des produits. Pourquoi on le fait? Parce qu'on voudrait justement que l'argent, les ressources que nous avons, puissent permettre, n'est-ce pas, l'atteinte des objectifs. Maintenant, c'est important, monsieur Tienne, de comprendre qu'en fait, un enfant qui grandit a besoin de certaines valeurs pour bien gérer tout ce qu'on lui donne, n'est-ce pas? Que ce soit les habits, que ce soit les ressources qui l'entourent, hein, que ce soit l'argent, que ce soit tout produit qu'on met à sa disposition. Et donc, au bas âge, cela doit être une culture. Cela doit être vu comme un exercice qui permet à l'enfant de grandir en se mettant en tête qu'en fait, si je n'apprends pas à bien gérer ce que j'ai comme produit, ce que j'ai comme ressources, ben, il est difficile pour moi d'atteindre les résultats. Et donc, plus on commence à temps, plus justement l'enfant intègre cela dans la vie. L'argent ne devient pas pour l'enfant, une pluie qui va tomber sur une terre aride, mais l'argent devient une ressource qui accompagne l'enfant tout au long de sa vie. Et cet argent, justement, qui doit être bien géré pour atteindre les objectifs escomptés.
Quelles sont les méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner l'éducation financière aux enfants et aux adolescents?
Alors, je pense qu'il y a trois méthodes très efficaces. D'abord, la première méthode, c'est déjà utiliser la famille comme étant une plateforme importante, okay, de gestion. Déjà à la maison, ce que je conseille aux parents, c'est de mettre les enfants devant des exercices de gestion. Ok, par exemple, remettre un peu de moyens de poche aux enfants et leur demander qu'est-ce qu'ils vont en faire. Utiliser déjà le fait que en famille, les enfants gèrent pas mal de ressources. On leur donne des jouets, parfois on leur donne la télévision, on leur donne du papier, on leur donne de l'argent pour l'école, mais déjà comprendre que la mise à contribution de l'espace familial comme lieu d'apprentissage pour toute gestion, c'est très capital, très important. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est ne pas gérer pour, c'est laisser les enfants gérer et regarder jusqu'où ces enfants peuvent être efficients, n'est-ce pas? Ça veut dire, à la fin de chaque mois, donner par exemple un montant d'argent de poche à chaque enfant et voir qu'est-ce que l'enfant va en faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est important de voir à ce moment-là? Ce qui est important de voir, c'est d'abord remarquer comment l'enfant fait ses dépenses versus qu'est-ce que l'enfant devrait faire. Parce que il y a des enfants à qui vous donnez de l'argent, tout de suite l'argent est versé dans les bonbons, dans les biscuits, dans les jeux, mais il y en a aussi qui économisent et qui peuvent s'acheter un matériel durable, n'est-ce pas? C'est très important d'apprendre aux enfants qu'en fait, vous pouvez gérer seul, parce que si l'enfant apprend à gérer seul, ben, l'enfant développe cette espèce d'autonomie intellectuelle pour se dire, ben, quand j'ai de l'argent, je dois considérer cet argent non pas comme l'argent des parents, non pas comme l'argent de mon père ni de ma mère, mais c'est mon argent, donc c'est une ressource que je peux mieux utiliser pour subvenir à mes besoins de base. Ça, c'est le deuxième élément le plus important, et je pense pour moi c'est une approche très efficace. Mais la troisième approche que je conseille beaucoup aux parents, c'est aussi mettre les enfants dans un processus de gain. Ça veut dire l'enfant apprend à travailler. Je me rappelle, nous, quand on était des enfants, les parents nous demandaient de couper la pelouse avant de nous donner un peu d'argent. Les parents pouvaient nous demander de laver la moto ou la voiture avant de nous donner un peu d'argent. Je crois que ça reste important de montrer aux enfants que l'argent, c'est pas un acquis, mais l'argent, en fait, c'est un rendement. L'argent, c'est la conséquence d'un effort. Et je préfère que chaque fois qu'on est en famille, au lieu de donner seulement de l'argent aux enfants, essayez de soumettre cet argent à un travail rendu. Donc, vous donnez un exercice à l'enfant, vous demandez un travail manuel à l'enfant, et à l'issue, vous remettez en récompense cet argent-là. En fait, le message que vous passez à l'enfant, c'est que l'argent, en fait, ça se mérite. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui ont travaillé, ont fait du sacrifice. Et je crois que si l'enfant grandit avec ce paradigme, justement, vous allez avoir des enfants qui commencent à voir de l'argent, non pas comme un droit, mais tout simplement comme un acquis, comme un rendement, comme un élément par lequel on met en exercice son sacrifice, un élément qu'on obtient par dévouement, par engagement, par effort. Et je crois que ce message est très important pour les enfants et les adolescents.
Comment les parents peuvent-ils intégrer l'éducation financière dans la vie quotidienne des enfants?
Alors, je reviens sur ce que je viens de vous dire, hein. C'est très simple. D'abord, premièrement, c'est en permettant aux enfants d'être capables de produire de l'argent. Vous savez, certes, on ne peut pas exposer les enfants à certains travaux, mais je crois que dans la famille, il est important que les parents commencent à aider les enfants à la pratique, et cette pratique qui génère justement de l'argent. Je donne un exemple, créer des incitations financières. En d'autres termes, un enfant qui a bien étudié pourra avoir une incitation financière, une récompense financière. Un enfant, par exemple, qui a lavé correctement la maison, un enfant qui arrange bien son lit, un enfant qui lave les vitres. Donc, toujours montrer à l'enfant qu'on peut rendre un service familial et gagner de l'argent. Ça, pour moi, c'est très, très efficace. Parce que ça commence à faire quitter les enfants d'un paradigme de « je suis enfant, papa va tout me donner, je suis enfant, maman va tout me donner » versus l'enfant qui commence à regarder comment je peux gagner de l'argent par l'effort. Très important, premier élément. Le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, et pour moi qui semble être utile, c'est parler beaucoup avec les enfants sur l'argent. Vous savez, à l'époque, on disait, attention, il ne faut pas parler de l'argent aux enfants, ne montrez pas l'argent aux enfants, parce que bon, un enfant qui commence à avoir l'argent, il va devenir un voleur. Vous vous rappelez un peu, c'était la conception ancienne. Mais non, je crois qu'il ne faudra pas faire de l'argent un tabou. Aujourd'hui, les enfants commencent à être sur les réseaux sociaux, les enfants commencent à être connectés à l'intelligence artificielle. Les enfants savent qu'il y a des joueurs qui ont parfois leur âge, hein, qui gagnent des millions de dollars dans le football. Et donc, il faudra commencer parfois à parler de l'argent comme une ressource et à montrer aux enfants comment on peut gagner de l'argent, comment on peut épargner de l'argent. Mais finalement, l'argent même sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quand aujourd'hui on a 10 dollars, 100 dollars, 200 dollars, quels sont les investissements durables? Et donc là, je reviens toujours à apprendre aux enfants à investir dans les longs termes, dans les économies positives, à investir dans leur santé, à investir dans leur formation, à investir dans leur sport, tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Très important. Et je crois aussi que le troisième modèle, c'est être modèle soi-même, être un exemple soi-même. Être un exemple soi-même, c'est voir comment est-ce que il y a des gens, les parents peuvent commencer à faire cet exercice de bien gérer, à montrer aux enfants comment est-ce que l'argent de la famille est bien dépensé. Quand un parent investit dans la construction, quand un parent investit par exemple dans la réhabilitation, dans l'éducation même de ces enfants-là, ben c'est aussi une façon d'apprendre aux enfants qu'en fait l'argent est un moyen, mais il faut l'utiliser efficacement pour avoir des bons résultats.
Quels sont les outils et les ressources disponibles pour aider les parents et les enseignants à enseigner l'éducation financière?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut catégoriser les ressources en deux volets. Il y a les ressources numériques et non numériques. D'abord, il faut très rapidement profiter de la révolution numérique, hein, qui nous offre aujourd'hui plusieurs outils en ligne, plusieurs outils d'intelligence artificielle pour apprendre. Jadis, quand vous devez apprendre, vous n'avez pas de choix que d'aller dans une salle de formation, vous n'avez pas de choix que d'aller rencontrer physiquement le formateur. Aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, au développement de nouvelles technologies, nous avons des outils numériques qui peuvent nous permettre d'apprendre à travers le téléphone, à travers, n'est-ce pas, des applications, à travers la télévision. L'accès à l'Internet qui s'est amélioré depuis 40 ans permet justement aujourd'hui à ce que l'on apprenne à distance. Donc, mettre à profit les nouvelles technologies pour pouvoir davantage pousser les enfants à apprendre. Quand vous allez sur certains réseaux, vous allez retrouver suffisamment des cours en ligne où les enfants peuvent apprendre, n'est-ce pas, la gestion financière. Mais de l'autre côté, il y a aussi des outils non numériques. Les outils non numériques, c'est justement organiser des petites séances d'interaction, d'échange avec les jeunes et les adolescents sur la question de la gestion financière en utilisant plusieurs plateformes. Ça peut être les enfants à l'écodim pour ceux qui vont à l'église, ça peut être les enfants à l'école même, ça veut dire intégrer un petit module simple sur la gestion financière, ce qui pourra permettre aux enfants d'apprendre, n'est-ce pas? C'est aussi utiliser les plaines des jeux pendant les vacances, mais toute opportunité qui rassemble les enfants pourrait être une occasion pour les mettre en exposition à des savoirs qui touchent la gestion financière. Et je crois que nous le faisons pas assez. Et aujourd'hui, quand vous regardez les vraies crises qu'on a aujourd'hui dans nos pays, c'est vraiment la crise de la bonne gestion financière. Et cette crise, je pense qu'elle prend racine déjà dans l'éducation de base. Et je crois qu'une telle façon de faire pourrait déjà commencer à apprendre aux enfants comment gérer l'argent, que ces enfants, lorsqu'ils auront la gestion de la cité, quand ils auront la gestion, n'est-ce pas, du pays, ben c'est des enfants qui vont se dire l'argent n'est qu'une ressource pour atteindre des objectifs de vie, des objectifs partagés, des objectifs qui touchent, n'est-ce pas, à la vie de tout le monde. Voilà comment je peux vous répondre à cette question-là.
Comment peut-on rendre l'apprentissage de l'éducation financière amusant et interactif avec les jeunes?
Alors, je crois que quand on parle justement de cette question, il faudra relier un peu ce que j'ai dit, l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, vous savez, les enfants, surtout aujourd'hui, les enfants sont très liés au digital, ok? Donc, tablette, dessins animés, tout ce qui est jeu. Déjà, il en existe, vous pouvez imaginer des jeux qui soient taillés sur mesure et que dans ces jeux, les enfants peuvent, par exemple, gérer de l'argent. Je me rappelle à l'époque, on avait un jeu qui s'appelait Metropolis, je crois, Monopolis, excusez-moi. Mais c'était un jeu qui apprenait comment vous pouvez gagner de l'argent, mais comment vous pouvez investir cet argent en achetant des maisons, en achetant des bâtiments, en achetant des aéroports. Donc, ça, c'est une façon déjà de commencer à mettre en exergue des jeux qui montrent aux enfants comment vous pouvez développer des capacités intellectuelles à la bonne gestion. Deuxièmement, c'est utiliser, n'est-ce pas, plusieurs autres formes de communication, notamment les pièces de théâtre, n'est-ce pas? Utiliser les dessins animés, utiliser les jeux qui appropriés, voilà, utiliser parfois des blagues pour justement montrer comment est-ce que les enfants peuvent apprendre à travers ces couloirs, n'est-ce pas, la gestion financière. Il est temps de commencer à utiliser ces moyens autrement. Faire un peu de l'apprentissage positif, c'est utiliser ces canaux pour développer des dessins animés, pour développer des jeux, pour développer, n'est-ce pas, des applications qui puissent justement mettre les enfants dans un bain d'apprentissage de la gestion de ressources de manière global, mais en mettant un accent particulier sur la gestion de l'argent, parce qu'en fait, c'est devenu un grand défi pour nos sociétés actuellement.
Docteur Michel Mouvoudi, la Radio Capi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie, cher Étienne.
Voilà les amis, c'est ici que notre magazine Bano Capi s'achève pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'éducation financière. Ensemble, nous avons découvert des astuces précieuses pour apprendre à nos enfants et adolescents à gérer l'argent avec sagesse et responsabilité. Vous souhaitez revoir les moments forts de cette émission ou partager les conseils avec vos proches? Rendez-vous dès maintenant sur les sites de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous retrouvez l'intégralité de ce numéro ainsi que toutes nos autres productions. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook Bana Okapi pour échanger et prolonger la discussion. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Planté Ambenga, Jeff Opela, Ezekiel Mouzali, Aguilene Kassassia, Moudombi Benjamin, Étienne Lissumbu, Pascal Tina Moula, Grace Rezolo, André Kitenge, Stanislas Djoumi et Christelle Fritti. Un grand merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination, à Jean-Marc Matoua qui m'a fait l'élé, Dijano pour la supervision, à Pierre Destinois pour la mise en onde et à Abilu Landry Beto pour la prise de son. Je suis Sarah Sundela à la présentation. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.